Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Aujourd'hui, vous le remarquez, l'enregistrement est de bien meilleure qualité. Nous sommes de retour au studio avec Élise et Clément, et il fait jour presque pendant l'enregistrement, ce qui n'est pas arrivé depuis bien longtemps, vivement la semaine prochaine. Aujourd'hui aussi, on rattrape enfin un film à côté duquel il était et il est impossible de passer, Marty Supreme, donc de Josh Safdie, et avec Timothée Chalamet, qui passe pour la troisième fois au comptoir après Dune 2 et Un Parfait Inconnu. Avant ça, cependant, nous entendrons Élise, qui, après avoir brillamment programmé l'épisode 70 la semaine dernière, voulait terminer son rapport du Festival Télérama en nous parlant du film lauréat de la Caméra d'Or à Cannes 2025, Le Gâteau du Président. Et avant ça encore, on a reçu il y a 10 jours un mail, et vous savez que vous pouvez toujours nous écrire pour nous faire part de vos retours sur redaction@transistor.fr et dans les espaces commentaires de vos plateforme et du site transistor.fr. Et donc nous avons reçu un mail d'un certain Sony Bravia, un téléviseur donc, qui intitule son courriel « Émission sur les Brutus » suivi de 3 emojis pouces en bas. Et donc je vais vous lire son mail et puis je vais proposer d'y répondre puisque je suis le seul ici au studio à avoir été là à l'émission en question. Bonjour Sony. Après avoir écouté votre numéro spécial sur les Brutus, je vous trouve pas du tout légitime pour choisir puisque vous n'avez pas vu la plupart des films. Comment pouvez-vous faire ce type d'émission sans avoir vu tous les films? Perso, je ne suis pas journaliste ou commentateur ciné, mais j'avais vu tout car je suis simplement cinéphile. Vous critiquez sans connaître, comme vous critiquez les actrices et les acteurs, vous avez des opinions très tranchées et non motivées, et même limite insultantes pour certaines personnes ou certains films. Je préfère vous écouter parler d'un film plutôt que critiquer des films non vus, qui pour certains étaient remarquables, cordialement. Eh bien, cher Sony, si je puis me permettre de vous répondre, je suis pas d'accord puisque on a critiqué, certes durement, peut-être plus durement que d'habitude et avec moins d'arguments et moins de fondements que d'habitude, les films qui étaient en sélection, mais on a toujours pris le soin de ne parler que de ceux que nous avions vus, ceux que nous n'avions pas vus. Eh bien, nous ne nous sommes pas prononcés à leur sujet, d'autant que, du reste, l'équipe de ce soir-là, Aubry, Corentin, Geneviève notamment, mais aussi Clément et Titouan, chacun avait vu au moins un des films, la sélection était globalement couverte, c'est-à-dire que personnellement je n'avais pas vu L'Attachement, ni L'Épreuve du Feu, ni L'Attachement et L'Épreuve du Feu, et bien Geneviève a su en parler et en parler très bien, de même que Titouan, qui a détesté La Pampa, vous l'avez sans doute remarqué, c'est peut-être à ça que vous faites allusion, Titouan a vu La Pampa et avait un avis tout à fait construit là-dessus. Donc oui, nos opinions, elles sont motivées. Insultantes, je vous rejoindrai parce que effectivement, moi, j'ai trouvé un peu dur mes camarades avec Léa Drucker et avec le film de C137, par exemple. Maintenant, voilà, c'était une émission qui ne rentrait pas dans dans la déontologie habituelle du comptoir. Néanmoins, je vous remercie pour votre mail. J'espère que cette petite réponse vous aura convenu. N'hésitez pas à nous réécrire, si besoin, évidemment. Si le besoin s'en faisait ressentir, ou à détailler plus précisément quel film nous aurions descendu sans les avoir aimés ou pas. D'autant que, oui, on a récompensé de Brutus du cinéma, des films qui n'étaient pas en sélection mais que nous avions vus. Donc bref, oui, non, on était... On a quand même toujours ça, pour le coup, au comptoir du cinéma depuis 3 saisons, de ne parler que de films que l'on a vus, que ce soit dans un cadre plus informel comme les Brutus ou dans un cadre plus formel comme cette émission qui va commencer dès à présent. « Et oui, cette émission, elle commence dès à présent, Élise, avec Le Gâteau du Président, un film irakien dont j'aurais bien voulu qu'on débatte ici, bon, et qui a malheureusement fait les frais du réagencement de la programmation. Mais je t'en prie, le micro est à toi.
À toutes et à tous, bonsoir Louis. Bienvenue dans ce troisième épisode consacré au Festival Télérama. Aujourd'hui, nous parlons du Gâteau du Président, réalisé par Hassan Hadi, qui a remporté la caméra d'or au dernier Festival de Cannes pour ce film. Le Gâteau du Président, c'est le premier film irakien que j'ai vu de ma vie. Et ce n'est pas anodin, car très peu de films sont tournés dans ce pays encore marqué par la corruption et l'activité des milices. J'ai beaucoup appris grâce à ce film sur une histoire que malheureusement, je n'avais jamais rencontrée dans les livres d'école. Et cette histoire, je m'en vais maintenant vous la raconter. Nous sommes en Irak dans les années 90. Le pays fait l'objet de lourdes sanctions de l'ONU qui imposent un blocus, notamment pour l'importation d'aide alimentaire et médicale. La population peine à se soigner et à se nourrir, elle est au bord de la famine, et pourtant Saddam Hussein exige d'elle qu'elle fête son anniversaire. Cette folie impacte même les enfants, qui sont sommés d'organiser un goûter d'anniversaire en l'honneur du chef du pays. On suit l'histoire de Lamiha, une petite fille de 9 ans qui vit avec sa grand-mère dans les marécages du delta de l'Euphrate. Les deux femmes sont très pauvres, et le 4 avril 1991, c'est le drame, car Lamiha est tirée au sort pour confectionner le gâteau du président, et elle sera dénoncée aux autorités par son professeur si elle ne l'apporte pas à temps. Cerise sur le gâteau, sans mauvais jeu de mots, Lamiha ne possède qu'un coq qu'elle trimballe partout, qui est, par définition parce que c'est un coq, incapable de lui donner des œufs. Il servira simplement de supportive animal. Alors, avec l'aide de son ami Saïd, elle s'échappe dans la ville pour trouver les ingrédients nécessaires, tandis que sa grand-mère fait des pieds et des mains au commissariat pour la retrouver. S'ensuit alors une véritable odyssée des bas-fonds pour trouver 2-3 œufs, un peu de farine et de sucre, le tout dans une atmosphère de fête forcée.
Et alors, à quel genre de film Le Gâteau du Président renverrait-il selon toi ?
Alors, un copain normalien m'a dit que ce film faisait très néo-réalisme italien. Pour être honnête, moi je savais pas du tout ce que c'était le néo-réalisme italien, donc j'ai regardé sur Wikipédia, et je cite « C'est la principale caractéristique de ce courant est de présenter le quotidien en l'état, en adoptant une position moyenne entre scénario, réalité et documentaire, et en se servant souvent des gens de la rue à la place d'acteurs professionnels. » En quelque sorte, en romançant la vraie vie. Et oui, c'est vraiment ça qu'on retrouve dans Le Gâteau du Président. On est pleinement immergé dans l'Irak des années 90, que l'on découvre à travers les yeux d'une enfant. On a l'impression de se faufiler avec elle entre les étals du souk, de voguer à bord de sa pirogue. Et on partage des scènes de la vie quotidienne avec les personnages qui sont effectivement joués, j'ai vérifié, par des acteurs non pour la plupart. Donc oui, on peut dire que ce film relève du néo-néo-réalisme irakien.
Et alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ?
Personnellement, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, il faut que je vous avoue un truc. J'ai pleuré, voilà, comme une madeleine, à plusieurs reprises. Il ne faut pas avoir honte de ça. Et puis, il y a de quoi. Le monde dans lequel vit Lamiha et Saïd évolue, dans lequel ils évoluent, est pétri de violence. Le portrait de Saddam est placardé absolument partout et il les observe en permanence, un peu à la Big Brother is watching you. La violence est toujours présente, elle avance masquée. Et comme dans les contes, derrière le bonhomme généreux se cache parfois un ogre. Ainsi, Hassan Hadi nous rappelle que la gratuité dans ce cadre existe très rarement. Le film montre tous les arrangements, les petits trafics et les sacrifices que doivent faire les populations fragiles pour survivre en temps de crise. Par exemple, quand une femme enceinte accepte de se prostituer pour aider les enfants à obtenir un peu de sucre, rompant ainsi d'ailleurs la dichotomie entre la pute et la bonne mère de famille. Ou quand Lamiha et Saïd proposent à un commerçant de lui monter ses sacs pour récupérer des œufs. Ces deux exemples montrent que les corps... Tous les corps sont susceptibles de devenir des biens d'échange dans ce genre de circonstances. Et il y a d'ailleurs un moment d'extrême tension où l'on a peur que l'histoire franchisse une limite insupportable sur cette question-là. Je n'en dis pas plus, vous verrez par vous-même si vous allez voir le film. Et ce qui frappe vraiment, c'est le contraste entre un ensemble de codes renvoyant à l'enfance et la menace toujours planante de violence. Les protagonistes se retrouvent à un moment dans une foire foraine avec des manèges ou dans une pâtisserie avec des gâteaux appétissants. Et de manière générale, dans le film, ils évoluent à travers une grande fête d'anniversaire. Il y a des ballons, des confettis partout, des gens qui chantent. Et ce qui est cruel, c'est que rien de tout ça ne leur est adressé. Les festivités représentent une menace et quant à la pâtisserie ou la fête foraine, elles renvoient les enfants à leur pauvreté. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, le film n'est pas plombant. Il y a des moments de légèreté qui nous permettent de souffler un grand coup. Par exemple, quand Saïd et Lamiha jouent à celui qui cligne des yeux en premier, sa mère, c'est une voilà, version irakienne, ou quand ils se retrouvent avec une troupe d'artistes dans un café. Cette dernière scène n'a aucune fonction narrative, d'ailleurs, elle est purement contemplative, un peu comme dans Poor Things, quand le personnage d'Emma Stone écoute une vieille femme qui joue de la musique à sa fenêtre. Et oui, il fallait le faire pour trouver un lien entre Poor Things dans Mais c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Bref, j'ai trouvé cette scène vraiment belle, donc quand Lamira danse avec une chanteuse, et elle a constitué pour moi une sorte de refuge mental au cours de la séance. Et un dernier mot sur le titre original du film, donc, qui est en arabe Le Royaume des Roseaux. Le roseau qui est à la fois un symbole de fragilité, mais aussi de résilience. Ce titre renvoie à l'endroit où vivent Lamia et sa grand-mère, les rives de l'Euphrate, là où a vécu le réalisateur lui-même pendant son enfance. Les marais au roseau, où commence et s'achève l'histoire, c'est un lieu d'entraide, de mythes et de légendes, où se noue finalement ce qu'il reste de l'humanité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était le dernier épisode consacré au festival Télérama. Merci à Louis et Clément de m'avoir écouté, merci à vous, chers auditeurs, et à bientôt pour une nouvelle chronique cinéma.
Merci beaucoup à toi Élise, on te retrouve d'ailleurs très bientôt pour une nouvelle chronique, puisque tu étais il y a peu à une rencontre presse en Comédia. On va pas en dire plus pour l'instant, on te retrouve évidemment juste après La Virgule pour parler de Marty Supreme, et puis dans l'épisode 70 pour retrouver tes deux autres chroniques du festival Télérama.